OK, on va commencer notre 48e leçon dans notre série sur l'histoire de l'Église. Ce soir, on va regarder les égarements du corps des vérités de l'orthodoxie doctrinale. Donc, entre la période de 1648 à 1900, il y a eu des grands égarements par rapport à l'orthodoxie. On va en regarder quelques-uns. On ne peut pas les regarder tous, mais on va en regarder des importants. Alors, bien entendu, on le sait, le christianisme comporte un corps de vérités qui sont absolument nécessaires pour être orthodoxe. Alors, être orthodoxe, ça veut tout simplement dire être conforme au dogme et à la doctrine du christianisme ou d'une religion. Nous examinerons aujourd'hui quelques grandes déviations doctrinales qui se sont développées au cours de la période de 1648 à 1900. Parmi ces déviations, nous pouvons citer le socinianisme, l'unitarisme et le modernisme. Alors, on va regarder très succinctement leurs enseignements et on va regarder d'abord l'égarement du socinianisme. Alors, le socinianisme est une doctrine religieuse se rattachant à l'enseignement de Lélio et surtout de Fausto Socin, qui ont vécu entre 1539 et 1604, qui rejettent notamment les dogmes de la Trinité, de l'incarnation, du péché originel et de la déité du Christ. Ils ne voient en la personne de Jésus qu'un homme bon, mais qui ne pouvait faire l'expiation des péchés. Ils considèrent également l'homme comme n'étant pas esclave du péché et pouvant faire le bien sans l'aide de Dieu. Alors, j'ai trouvé dans un volume que j'avais à la maison qui s'appelle « Introduction à la théologie » des éditions Impact de 2009. Le théologien Paul Enns qui parle de Faust Socin de la manière suivante. Alors, je le cite. Il dit « Faust Socin, qui a vécu entre 1539 et 1604, était d'accord avec Pélage pour nier la dépravation de l'homme. Socin enseignait que l'homme n'avait pas été créé à l'image de Dieu au sens de la perfection morale, mais seulement au sens de la domination sur les créatures qui lui sont inférieures. Bien qu'Adam ait péché, son péché, selon eux, n'a pas eu d'effet sur sa postérité, puisque la nature morale de l'homme est transmise de façon intacte à sa postérité. Si les hommes pêchent aujourd'hui, ce n'est pas en raison de l'hérédité du péché dans l'homme, mais à cause des mauvais exemples qui leur sont donnés. Alors, Socin enseignait au contraire que les hommes naissaient avec la nature d'Adam avant la chute, et qu'ils avaient donc la capacité d'éviter de pécher. On a ça à la page 474 de son livre. Alors, Socin repoussait l'idée d'une justice divine exigeant la mort de Christ. Il enseignait que Dieu pouvait pardonner aux pécheurs à volonté, sans nécessiter l'expiation par Christ. Alors, il disait que Dieu pardonne aux pécheurs sur la base de sa miséricorde et non pas à cause de la mort de Christ. Il disait tout ce que Dieu exige du pécheur, c'est la repentance et le désir d'obéir à la loi divine. Socin enseignait que la mort de Christ était un exemple d'obéissance qui devait inspirer tout le monde. Alors, le point de vue de Socin, historiquement, se rattache au pélagianisme et plus récemment à l'unitarianisme. Alors, on pense que des fois, ces vieilles affaires-là ont commencé dans les années 1500, que ça n'a plus d'influence aujourd'hui. Mais quand on voit l'unitarisme, ça existe encore aujourd'hui. Alors, ça s'est quand même continué à travers des siècles. Alors, leurs enseignements ont résisté au temps et s'exprime encore aujourd'hui dans l'unitarianisme et également chez les témoins de Jéhovah. Les doctrines de la préexistence de Christ et de sa déité, de la Trinité, de la prédestination, de l'élection, de l'incapacité de l'homme à se sauver lui-même, de la corruption totale de l'homme, de la rédemption particulière, etc., ont été très solidement établi par les théologiens orthodoxes au cours des siècles. Nous devons donc rejeter catégoriquement et définitivement cette très grave déviation doctrinale qu'est le socinianisme. Alors, les Saintes Écritures nous avertissent que des faux prophètes viendront dans le monde. Alors, on a ça dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 1 à 3. « Il y a parmi le peuple de faux prophètes, et il y en aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. » La Bible nous informe également par qui sont inspirés ces faux docteurs. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, les versets 13 à 15. « Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » Le deuxième point qu'on va regarder, le deuxième égarement, c'est l'égarement de l'unitarianisme. Alors, il y a eu des Anglais, à cette époque-là, qui ont adopté le socinianisme et ils ont été connus sous le nom d'unitariens. Alors, on peut regarder Theophilus Lindsay, qui a vécu entre 1723 et 1808, est un théologien anglican britannique qui devint unitarien. Il réclama des autorités de l'anglicanisme qu'un ministre pût garder son poste, même s'il ne croyait pas à la déité de Christ, mais seulement aux Écritures ouvertes à l'interprétation. Le Parlement rejeta sa requête en 1774. Alors cette décision le força à quitter l'Église anglicane et à fonder une Église unitarienne à Londres. En 1779, le Parlement révisa sa position par un amendement au Toleration Act de 1689 en permettant que ceux qui niaient la Trinité pouvaient demeurer dans l'Église anglicane. Imaginez-vous l'erreur. Des chrétiens qui approuvent que quelqu'un qui nie la Trinité puisse quand même être pasteur dans l'Église anglicane. Moi, quelque part, c'est là qu'on voit pourquoi l'Église anglicane a vraiment dérapé depuis cette époque-là. Alors, il y a un article que j'ai trouvé sur le site web Wikipédia, la partie française, nous présente les grands dangers de l'égarement de l'unitarianisme. Alors, ils disent, comme toutes les traditions vivantes, l'unitarisme ou l'unitarianisme, certains préfèrent l'anglicisme unitarianisme. Il semble que le mot unitarianisme soit plus un anglicisme, que le vrai mot français serait plus l'unitarisme. Alors, présente des visages diversifiés. Si à l'origine les églises chrétiennes anti-trinitaires étaient relativement conservatrices, l'arrivée au Nouveau Monde et la création des États-Unis, souvent autour de personnalités unitariennes, lui apporta un début de souffle nouveau. Par exemple, le pasteur et philosophe Ralph Waldo Emerson, vous avez sûrement déjà entendu parler de ce monsieur-là, l'un des rares théologiens à avoir trouvé grâce aux yeux de Nietzsche, développa une philosophie de l'existence où l'idée de l'interdépendance du vivant et du monde joue un rôle clé. Par la suite, désireux de développer des contacts avec des personnes issues d'autres voies spirituelles, mais aussi de se distancier du christianisme classique, de nombreux unitariens se déclarèrent universalistes. Alors, universaliste, ça veut dire que le salut, tout le monde est sauvé sans exception. Pour eux, la question de l'unité de Dieu n'était plus centrale. L'unité était désormais à rechercher au niveau des êtres humains, mais aussi au niveau de la relation de l'humain au monde. Enfin, selon le courant majoritaire de l'unitarisme-universalisme, issue de la fusion des communautés universalistes et unitariennes aux États-Unis en 1961. Mmh. Alors, 1961, pour ces deux mouvements-là, l'unitarisme et l'universalisme, c'est très important parce qu'ils se sont unis. Alors, ça s'est fait en 1961 aux États-Unis, mais le mouvement est beaucoup plus vieux que ça. Mais on va voir où ça les a menés. Pourquoi je l'ai souligné dans le prochain paragraphe? Les congrégations reçoivent des humanistes, des agnostiques, des athées, des théistes, des chrétiens libéraux, des néopaganistes, néo ça veut dire des nouveaux, néopaganistes et des spiritualistes de la terre. Les congrégations sont liées par un certain nombre de principes communs, chaque personne décidant de la croyance qui mène vers ces principes. Ces principes sont les suivants. La liberté de conscience et de penser, la valeur et la dignité inhérente à chaque personne, la justice et la compassion dans les relations humaines, la responsabilité dans la protection et la promotion de la vie, l'engagement en faveur des principes démocratiques. En parlant de croyances et de théologie, il est important de noter que l'unitarisme-universalisme se considère comme une façon de pratiquer la religion plutôt qu'une doctrine religieuse. La religion y est une recherche permanente. Imaginez-vous, tu déclares une religion puis ils sont en recherche. Ils n'ont pas trouvé. Ils sont en recherche. En recherche de sens, de but, de valeur et de profondeur dans la vie d'une personne. Il est affirmé que tous les individus ont le droit de faire leur propre recherche et toutes les personnes ne vont pas vers les mêmes croyances. Alors, ça ressemble drôlement à ce qu'on voit aujourd'hui dans le Nouvel Âge. Bien que certaines congrégations soient toujours chrétiennes libérales, aujourd'hui, seulement 20% des unitariens universalistes se qualifieraient de chrétiens. Donc, la religion unitarienne universaliste ne peut pas être considérée comme chrétienne. Et la troisième, et ça je dirais que c'est peut-être la plus importante parce que le modernisme a fait des ravages épouvantables chez les chrétiens depuis déjà un bon bout de temps. Alors, on va regarder un petit peu les caractéristiques. Bien sûr, on fait un survol très rapide du modernisme, mais c'est important de savoir au moins qu'est-ce qu'ils enseignent. Alors, les unitariens devinrent les précurseurs du modernisme du 19e et du 20e siècle. Les modernistes nient le surnaturel, les miracles, la naissance virginale de Christ, sa déité, sa mort substitutive et vicariale, sa résurrection, son ascension, sa deuxième venue, l'inhérence de la Bible, en un mot, ils croient à rien. Qu'entend-on par modernisme? C'est simplement la théologie de ceux qui ont été influencés par l'enseignement des tenants de la haute critique. Bien sûr, ils varient dans les détails, mais ils se rejoignent tous, tenants de la haute critique et modernistes, pour refuser la pleine inspiration des Saintes Écritures. Alors, leur principale caractéristique, c'est qu'ils nient l'inspiration et l'inhérence des Saintes Écritures. Alors, dès que tu fais ça, c'est sûr que tu vas déraper, puis pas à peu près. Je vais te donner un exemple. Un de leurs enseignants, qui s'appelait Jean Astruc, en 1753, fut pratiquement le point de départ de la méthode populaire du modernisme, en attribuant la rédaction de la Genèse à deux auteurs, au motif que Genèse 1 utilise Elohim pour Dieu, tandis que Genèse 2 utilise les mots Jéhovah Elohim. Nous demandons avec stupéfaction, est-ce une raison suffisante pour soutenir que le livre de la Genèse a deux auteurs? Prenons par exemple un critique en train de lire un récit de la vie de Napoléon Bonaparte et trouvant que le petit Corse est tantôt nommé Napoléon et tantôt Napoléon Bonaparte dans le même récit. Que penserait-on de ce critique s'il concluait que le livre a été composé de deux documents émanant d'éditeurs ou de rédacteurs inconnus, pour reprendre les termes favoris des modernistes. Ne penserions-nous pas plutôt qu'il est hors de sens? Et quand nous rappelons qu'un Français débauché est à l'origine de cette idée, nous devrions nous étonner qu'elle ait pu se diffuser si nous ne savions pas à quel point les inconvertis se plaisent à croire tout ce qui paraît saper l'autorité du livre qui témoigne contre eux. Alors, un autre exemple, mais là, je suis loin d'aller dans tous les exemples parce qu'il faudrait passer 10 ans à étudier ça. Mais juste donner un autre exemple. Un autre qui s'appelait Wellhausen. Alors, une autre caractéristique de tout ce mouvement-là, c'est que la haute critique, ça vient, c'est beaucoup, la source de ça, c'est en Allemagne. Ça a commencé en Allemagne et la théologie allemande a beaucoup contribué à répandre ça un petit peu partout sur la Terre. Alors, pour un exemple, Wellhausen relégua complètement Astruc dans l'ombre par sa découverte imaginaire de pas moins de 22 auteurs différents pour les livres de Moïse, tous inconnus. Alors, il prend les livres de Moïse, puis lui, il trouve là-dedans que ces 22 auteurs différents sont tous inconnus, puis il se base sur des niaiseries. Mais il reste que toutes ces choses-là, c'est rentré dans les grandes universités. Comme par exemple, si tu vas à l'université, disons, de Montréal, en théologie, les grandes universités du monde, ben c'est ce genre de choses-là qu'on enseigne. Alors, si quelqu'un rentre là que la foi, il sort puis il l'a perdu. Ça, c'est sûr et certain. Parce que c'est incroyablement... Alors, lui, il était rendu avec 22 auteurs dans l'Ancien Testament, dans le livre de Moïse. Alors, on va regarder quelques enseignements du modernisme. Alors, nous proposons de ne citer que les vues modernistes que d'un seul de leurs livres. Alors, on va prendre un exemple. Un de leurs livres qui s'appelle Le commentaire de Peake, P-E-A-K-E, qui s'appelait Peake, ou Piqué, je ne sais pas trop quoi, là, sur la Bible. Il a été publié après la Première Guerre mondiale et est donc assez à jour. Le professeur A.S. Peake, qui avait une maîtrise et un doctorat en théologie, fut son compilateur. Et il a été aidé pour monter ce commentaire-là de 61 érudits qui y ont joint leur contribution. La plupart d'entre eux étaient des directeurs et des professeurs de faculté de théologie. Imaginez-vous, une personne, un incroyant, qui s'est joint avec 61 autres docteurs pour écrire un commentaire et qui est complètement erroné. Alors, le révérend W. Graham Scroogey, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce nom-là, mais c'est un conservateur chrétien, décrivait ce commentaire comme pétri d'incrédulité. Quelques extraits vont prouver abondamment la justesse de ce qualificatif. Le commentaire de Peake, comme il le dit lui-même, vise à faire le point des résultats généralement acceptés en matière de critique, d'interprétation, d'histoire et de théologie biblique. Mais là, ici, on parle des libéraux. Alors, il se dit qu'il fait un point, il fait le sommaire de toutes ces choses-là. Alors, il émet l'espoir de pouvoir être spécialement utile aux moniteurs d'école du dimanche ou autres jours de la semaine, aux conducteurs de classes bibliques, aux prédicateurs laïcs et aux étudiants en théologie. Il dit qu'il veut être utile à ces gens-là, imaginez-vous. Que Dieu ait pitié des leaders enseignés d'une pareille manière. L'inspiration littérale des Écritures originelles est niée par les modernistes, comme le prouvent les extraits suivants. Au sujet de la Genèse, le professeur Peake écrit « Outre des incohérences internes, on y trouve des choses intrinsèquement impossibles à croire. Une bonne partie de Genèse 1 à 11 a des mythes pour origine, mais cela a été purifié à des degrés divers par le génie religieux d'Israël et l'esprit de la révélation. » Alors, le professeur pense donc que Genèse 1 à 11 est largement mythique et par conséquent non inspiré, mais purifié par le génie religieux d'Israël et l'esprit de la révélation. Autrement dit, il est inspiré d'une manière vague et partielle. Alors, on pourrait, bien entendu, multiplier les exemples. Quels ont été les résultats de ça dans l'ensemble du monde chrétien? Alors, le modernisme n'est que de l'incrédulité sous un nouvel habit, s'avançant d'un air amical comme pour aider une chrétienté épuisée à redorer son blason, mais ses affinités ouvertement déclarées sont aussi mauvaises, nous le disons sciemment et volontairement, que le baiser de Judas, un baiser perfide, corrompu, hypocrite, le pire cas de traîtrise que ce monde n'ait jamais vu. Judas a trahi la parole vivante, le Christ de Dieu. Le modernisme a trahi la parole écrite, les saintes écritures, sans lesquelles nous ne pouvons connaître la parole vivante. Il a sapé la vie spirituelle de l'Église de Dieu et il a détruit l'effort d'évangélisation. Il a ôté la vigueur des vies chrétiennes. Il a augmenté le flot de mondanité qui inonde la profession chrétienne de toutes parts. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait de moins en moins de monde dans les églises et les chapelles, ni que pour attirer les masses, on adopte des méthodes mondaines qui rivalisent avec le théâtre, le cinéma et les spectacles de variété. Les avis affichés aux panneaux d'information des églises choqueraient nos grands-pères au-delà de toute mesure. Jeux de cartes, spectacles dramatiques, danse, etc., etc., sont largement utilisés dans une vaine tentative de retenir les masses, mais c'est sans résultat et un échec au moins pour Christ et sa cause. Ceux qui restent contribuent à accroître l'apostasie annoncée depuis longtemps par l'Écriture et qui arrive maintenant à pas de géant. Les modernistes sont des hommes mauvais, car ils font un travail terriblement mauvais. Ce sont des séducteurs, car ils séduisent en détournant de la vraie compréhension de l'Écriture. Ils vont de mal en pis, comme nous l'avons vu. La génération suivante va sûrement prendre comme point de départ les idées qui étaient l'aboutissement de la génération précédente. Imaginez-vous, si vous prenez comme point de départ eux où ils se sont rendus, puis vous développez encore davantage, ça va aller loin. Alors, ils trompent sans aucun doute, mais eux-mêmes sont trompés. Ceci explique comment ils peuvent faire honnêtement le travail du diable, mais ils n'en sont que d'autant plus dangereux. Quel réveil les attend? Par exemple, quand on lit le commentaire de Peak, il y a beaucoup de passages éloquents et beaux, exaltant le Seigneur Jésus et son œuvre, mais ils sont mélangés avec d'autres qui les annulent entièrement. C'est comme si une équipe d'ouvriers s'était mis d'accord pour que la moitié d'entre eux sape les fondements d'un bâtiment, pendant que l'autre moitié distrairait l'attention des gens en faisant les éloges de la beauté de la partie supérieure de ce bâtiment jusqu'à ce que tout s'écroule dans un fracas terrible et que le bâtiment s'effondre. Ils sont comme des casseurs qui ont l'imprudence de détruire les fondations et qui panique à l'idée d'être tué dans l'écroulement du bâtiment. Alors, on a à examiner notre attitude vis-à-vis des Écritures suite aux libéraux. Nous croyons que la vraie attitude à adopter vis-à-vis des Écritures fut exprimée par quelqu'un qui n'avait rien à envier en intelligence et érudition à tous ceux que nous avons nommés, et qui, en matière de perspicacité spirituelle et de dons spirituels, était bien au-dessus d'eux. John Nelson Darby. Alors, juste en passant, le fait qu'on mentionne l'opinion de Darby sur la Bible, ça ne veut pas dire qu'on approuve tout ce que Darby a écrit. Il écrivait avec l'humilité qui dénote toujours un esprit de réelle vraie grandeur. Voici ce que John Nelson Darby écrivait concernant les Écritures. Il dit « Je dois reconnaître, ici de la manière la plus complète, la plus claire et la plus distincte, ma conviction profonde et enseignée de Dieu, de l'inspiration des Écritures. Ceci veut dire que tout en admettant, s'il en est besoin, des défauts dans la traduction et autres, quand je lis la Bible, je la lis comme ayant autorité absolue sur mon âme, comme étant la parole de Dieu. Il n'y a pas de plus grand privilège que d'avoir des communications en direct de Dieu lui-même. Ma joie, mon réconfort, ma nourriture, ma force pendant près de 30 ans ont été les Écritures reçues implicitement comme la parole de Dieu. Au début de cette période, j'ai passé par de très profonds exercices d'âme sur ce point. Mais depuis ce temps-là, même si le ciel et la terre, l'Église visible et l'homme lui-même devaient s'écrouler devant le néant, je tiendrai ferme, par grâce, la parole comme étant un lien indissoluble entre mon âme et Dieu. Je suis content que Dieu me l'ait donné comme tel. Je ne doute pas que la grâce du Saint-Esprit soit nécessaire pour en profiter et pour lui donner une vraie autorité sur nos âmes à cause de ce que nous sommes. Mais cela ne change en rien à ce qu'elle est en elle-même. Si elle est vraie, comme quand on la reçoit, elle doit être vraie. Elle doit avoir été vraie auparavant. Nous croyons que les extraits ci-dessus dépeignent l'attitude juste à adopter vis-à-vis des Saintes Écritures. Ils dénotent un esprit renouvelé par le Saint-Esprit de Dieu et capable de recevoir des lumières spirituelles. Quel contraste avec les écrivains du modernisme. La Bible a de même reçu des hommages des ennemis directs de la croix. Nous n'en citerons qu'un ici, faute d'espace. Napoléon, qui certainement ne fut pas un chrétien professant, dit à ses compagnons d'exil à Sainte-Hélène, « Je connais les hommes. Je vous dis que Jésus-Christ n'était pas un simple homme. Tout en lui m'étonne. Entre lui et tout autre dans le monde, il n'y a aucun terme de comparaison. Il est vraiment un être par lui-même. Ses idées et ses sentiments, les vérités qu'il annonce, sa manière de convaincre, ne peuvent être expliquées ni par l'organisation humaine, ni par la nature des choses. Sa naissance et l'histoire de sa vie, la profondeur de sa doctrine qui en saisit les pires difficultés, qui se saisit des pires difficultés et leur trouve la solution la plus admirable, son évangile. Son apparition, son empire, sa marche au travers des âges et des royaumes, tout est pour moi un prodige, un mystère insoluble qui me plonge dans des rêveries dont je ne peux m'échapper. Un mystère qui est là devant mes yeux et que je ne peux ni expliquer. Ici, je ne vois rien d'humain. Qui sait, peut-être Napoléon a-t-il été sauvé sur la fin de sa vie. Nous ne savons pas. Maintenant, il y avait des avertissements que la Bible nous donnait concernant toutes ces choses-là qui arriveraient au cours des siècles. Alors, les avertissements concernant les derniers jours. Je pense que nous sommes dans les derniers jours. Alors, l'apôtre Paul, écrivant à Timothée, a indiqué les caractéristiques des derniers jours. Il a énuméré ce qui se développerait dans le monde, dans ces temps fâcheux. Et notamment, quand il dit les hommes égoïstes, avares, vantards, hautains et outrageux, de 2 Timothée, chapitre 3, verset 2. À cette liste, l'apôtre a ajouté un qualificatif significatif et sinistre, ayant la forme de la piété, mais en ayant renié la puissance. Or, détourne-toi de tels gens. 2 Timothée, chapitre 3, verset 5. La forme de la piété n'est pas la piété. Il est terrible de penser que Satan, qui lança il y a des années l'attaque contre la vérité par des gens ouvertement incroyants comme Tom Paine, Charles Bradlaugh et le colonel Ingerson, est maintenant capable de saper la forteresse de l'intérieur. Nous trouvons des directeurs et des professeurs de faculté de théologie, des évêques, des doyens, des ecclésiastiques, des ministres, tous ces gens prêchant maintenant les vues de Tom Wayne depuis les chaires disponibles dans les facultés et les églises de toutes parts. Il est malhonnête de recevoir des honoraires pour professer la défense et la prédication de l'Évangile quand on passe son temps à détruire la foi des élus de Dieu et à renverser au lieu d'édifier. Quelle condamnation effroyable sera la leur! Que Dieu ait pitié d'eux et ouvre leurs yeux avant qu'il ne soit trop tard. Hélas, ceci ne pourra jamais défaire le mal opéré dans les esprits de ceux qui sont tombés sous leur influence, mais ils peuvent obtenir miséricorde pour eux-mêmes par la repentance et prouver leur repentance en cherchant avec vigueur à annuler leur mauvais travail autant qu'ils peuvent. Les calvinistes croient en une Bible inspirée et en un Christ infaillible qui croit en la déité du Fils de Dieu et sa véritable humanité, sa naissance virginale, sa mort expiatoire, sa résurrection glorieuse et sa seconde venue. La scission entre modernistes et calvinistes devient de plus en plus marquée et des mouvements se mettent sur pied, croyons-nous, finiront par former un camp des modernistes d'un côté et un camp des calvinistes de l'autre. Les calvinistes n'ont pas d'autre choix que de se séparer des modernistes s'ils veulent être loyaux à leur Seigneur et s'incliner devant l'Écriture. Comment un vrai chrétien pourrait-il s'asseoir sous les blasphèmes des enseignements modernistes? L'Écriture que nous avons déjà citée est très claire. « Détourne-toi de tels gens. » 2 Timothée chapitre 3, verset 5. Nous lisons encore, « Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois et de terre, et les uns à honneur et les autres à déshonneur. Si quelqu'un donc se purifie de ceux-ci, il sera un vase à honneur, sanctifié, utile au maître, préparé pour toute bonne œuvre. » 2 Timothée chapitre 2, versets 20 et 21. « Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incroyants, car quelle participation y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord de Christ avec Béliard, ou quelle part a le croyant avec l'incroyant? Et quelle convenance y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Si vous êtes le temple du Dieu vivant, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et soyez séparés, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, et moi, je vous recevrai. » 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 17. C'est pourquoi ainsi dit l'Éternel, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Qu'ils reviennent vers toi, mais toi ne retourne pas vers eux. Jérémie, chapitre 15, verset 19. Il est clair que l'Écriture est assez explicite, que chaque chrétien agisse en conséquence. En le faisant, ils se délivreront eux-mêmes et seront en aide aux autres. Combien restent dans des relations ecclésiastiques plus que douteuses, avec la fausse excuse qu'ils peuvent faire plus de bien en restant dans ce qui est corrompu qu'en en sortant. Soyons gouvernés par l'Écriture et non pas par nos propres pensées. L'Écriture est plus sage que nous, nous le sommes. Alors, la pensée qu'on a souvent vue, je me souviens d'avoir fait des études sur la séparation, et il y a des gens qui disent, ben c'est bien mieux de rester à l'intérieur pour chercher à corriger. C'est pour ça que la Bible dit, séparez-vous. Il faut que tu les quittes. T'essayes pas d'échanger de l'intérieur, tu réussiras pas. Alors, faut vraiment que tu écoutes ce que la Bible nous dit. Nous avons l'espoir et nous croyons que beaucoup qui sont englués dans le modernisme auront les yeux ouverts quand ils réaliseront jusqu'à quel point terrible il entraîne, jusqu'à une apostasie ouverte et effrontée, et qu'ils puissent malgré tout se retrouver dans les rangs de croyants fidèles. On est stupéfait de voir combien les modernistes présument que l'érudition aide toutes de leur côté. Ils l'affirment tranquillement encore et toujours, si bien que finalement, l'érudit qui s'aventurerait à ne pas être d'accord avec eux le fait au péril de détruire sa réputation d'érudit. Dans une grande université, les grandes universités de ce monde, dans une faculté de théologie, quelqu'un qui n'épouse pas ces affaires-là, il passe pour un deux de pique. T'es pas un érudit, t'es pas un savant. C'est comme vraiment méprisant. C'est incroyable. Mais l'érudition n'est en aucun cas entièrement d'un seul côté. Nous pourrions donner de nombreux noms de calvinistes qui sont aussi érudits que les hommes qui tournent en dérision leur vue. Que personne ne soit donc troublé par ce postulat que l'érudition est toute d'un seul côté, ni par le mépris que les modernistes déversent sur les croyants fidèles en l'appliquant à tous ceux qui refusent l'enseignement des modernistes. Nous nous attendons à être accusés par les modernistes de tenir un langage grossier et peu chrétien parce que nous dénonçons leurs enseignements blasphématoires. C'est la manière d'agir de ceux qui propagent des erreurs. Au lieu de tenter de combattre ce qui est dit ou écrit contre eux, ils cherchent un refuge dans la découverte de fautes de langage chez leurs opposants. Une telle conduite est de la dérobade pure et simple. Mais ceci ne nous touche pas. Quand les fondements de la foi chrétienne sont en jeu, ce n'est pas le moment de mettre des gants de velours. L'affaire est, on ne peut plus, sérieuse. Ce n'est pas une question d'opinion, mais de vie ou de mort. Quand les soldats vont à la bataille, ils ne mettent pas des gants blancs, ni non la fleur au fusil. Leur travail est dur et grave. Nous sommes sérieusement exhortés dans l'Écriture à combattre pour la foi une fois enseignée au sein, Jude 3, et nous cherchons à suivre cette injonction. Il n'y a pas de langage assez sévère pour condamner ces menaces mortelles. Il ne peut y avoir de quartier. Nous n'en attendons aucun et nous n'allons pas en donner. Que Dieu garde et préserve de cette illusion effroyable les siens qu'il aime et qu'il leur donne grâce et puissance pour supporter la vérité et la défendre à tout prix. Alors, j'ai vu au moins deux applications du texte d'aujourd'hui. La première, apprenons que les hérésies sont anciennes et qu'elles ne font que réapparaître avec un nouveau masque. Par exemple, l'arianisme, qui était au début du 3e, 4e siècle, à cette époque-là, qui se transforme en socinianisme. Alors, c'est la même chose. Toutes les deux nient la divinité de Jésus-Christ, mais à quelque part, ça change de forme, ça change de présentation, ça change de manière de dire les choses. Il en est ainsi de presque toutes les hérésies. Alors, les hérésies, c'est rare que c'est nouveau. C'est toutes des affaires qui reviennent avec un nouveau masque. Connaissons bien, soyons sur nos gardes et connaissons bien les Écritures, c'est la meilleure prévention. Deuxième application, soyons prudents dans le choix de nos écoles d'enseignement biblique et de nos commentaires de la Bible. Certaines institutions et certains ouvrages de théologie sont de véritables poisons et extrêmement dangereux. Prions avec ferveur d'être protégés de ces fléaux et sachons demander conseil pour nos choix. Que le Seigneur soit loué, béni et adoré pour nous donner de demeurer fermes dans nos voies.